Seul, je vais vite.
Ensemble, je vais plus loin.
Parce que la relation,
c'est essentiel. Une émission d'Émilie Vialette.
De quoi t'aurais besoin pour pouvoir avancer?
Ok, c'est quoi ta demande? De quoi t'as besoin?
Essentiel, l'émission qui vous emmène au cœur des relations humaines. La maltraitance des personnes âgées est un sujet dont on entend malheureusement de plus en plus parler. Rarement délibérée, elle est plutôt le symptôme d'une société qui accorde de moins en moins de moyens à ses soignants, les obligeant à enchaîner les soins à une cadence parfois infernale, et qui ne leur permet pas de tenir compte des besoins fondamentaux des patients. Refusant l'inacceptable, deux professeurs d'éducation physique, Yves Ginest et Rosette Marescotti, ont développé, dans les années 80, une nouvelle approche du soin appelée « humanitude ». Si on devait la résumer en quelques mots, on pourrait dire que l'humanitude vise à remettre au centre de la relation de soins les critères qui font la spécificité de notre humanité. Pour en parler plus longuement, je reçois aujourd'hui Nicole Sicard, médecin généraliste, ancienne chef de service en gériatrie et aujourd'hui investie dans l'association Harmonie Santé basée à Saint-Victor-et-Melvieu. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Alors pour commencer, je voudrais revenir sur votre parcours professionnel. Quel a été votre itinéraire et qu'est-ce qui vous a amené à découvrir l'humanitude ?
Mon itinéraire, oulala. Après des études de médecine, j'ai pris quelques vacances dans le sens où j'ai préparé un voyage en bateau que j'ai fini par réaliser en famille avec mes deux enfants. Voilà, j'ai commencé ma carrière de cette manière-là. Bon, avant de partir, j'avais fait quelques remplacements à la fin de mes études. C'est vrai que mon rêve, mon inspirateur, c'était le docteur Schweitzer. C'est lui qui m'avait inspiré pendant mon adolescence, ma jeunesse, et j'avais très envie de faire chirurgie, sauf que la vie familiale m'intéressait finalement beaucoup plus que les études. Et quand le voyage en bateau s'est terminé, j'ai un petit peu réfléchi sur mes orientations, parce que c'était une nette coupure, et j'ai choisi de revenir vers la médecine. C'est à ce moment-là que je me suis trouvée, bon, pour refaire un petit peu mes armes, pour les consolider, me sentir plus à l'aise dans le métier. Je suis retournée à l'hôpital, j'ai repris des postes un petit peu temporaires, transitoires. Et puis j'ai fini par passer le concours de praticien hospitalier, devenir très vite chef de service, effectivement, dans les hôpitaux. Et je me suis donc trouvée, un petit peu de façon rapide, responsable d'une unité de 445 lits, dans laquelle j'étais quasiment le seul médecin à temps plein. Ce qui était une expérience assez impressionnante, vue de l'extérieur. Et puis de l'intérieur, ben on a le nez dans le guidon.
Et justement, de l'intérieur, quelle a été votre expérience face aux pratiques que vous avez pu observer ?
Alors, déjà, en amont, j'avais une petite expérience dans le sens où, dès mes 18 ans, je suis allée dans les hospices de la région parisienne pour des jobs d'été et j'ai contribué à faire des soins à des personnes âgées. Dans des grandes salles collectives, avec une absence d'attention. Alors, je tiens vraiment à dire que, pour commencer, dans certains points de vue, on a fait beaucoup de progrès dans l'accompagnement des personnes âgées. Donc, les progrès, ils ont été essentiellement sur les locaux. Donc, on a amélioré les locaux. C'est sûr que ces grands dortoirs de 36 lits, donc j'en ai quand même connu dans ce service dont je parlais tout à l'heure, dont je suis devenue responsable, je ne sais plus, c'était en 89-90, dans ces années-là. Il y avait encore l'hospice, il y avait encore les salles communes. Et l'amélioration a été que tout le monde puisse avoir une chambre alors individuelle ou éventuellement encore à deux personnes. Qui ne se connaissaient pas avant, ce n'est pas forcément évident. Mais là où ça patauge un peu, c'est dans l'approche humaine, en fait, auprès des personnes. Et ce qui me choquait tout particulièrement, c'était... ce qui paraissait le plus évident, c'était l'absence de pudeur. la perte des notions basiques de pudeur que chacun pouvait avoir. Et je pense que je me suis surprise moi aussi à oublier cette dimension-là, le nez dans le guidon. Et de ne pas hésiter à mettre une personne nue à côté d'une autre personne qui observe, de ne pas fermer la porte quand on fait la toilette, de parler d'un tel comme ça en criant d'une porte à l'autre. Cette absence de considération de la personne accompagnée en tant que vraiment être humain à part entière.
Et du coup, vous avez essayé de mettre des choses en place à ce moment-là ?
À ce moment-là, oui, j'ai essayé de mettre des choses en place. Je me suis vraiment creusé la tête. J'avais fait des tentatives d'action, de protocoles, de procédures et tout. J'ai même eu un projet de service qui avait été financé par les tutelles, assez ambitieux, qui concernait le bien-être des soignants au travail, qui est tout à fait parallèle à la qualité du travail réalisé, en fait. On a bien avancé pendant un an, deux ans, on a eu un renouvellement de financement, puis du jour au lendemain, ça a capoté. Tout simplement parce que l'institution n'était pas prête, pour faire simple, à accueillir ce type de philosophie, si on peut dire, enfin un mode de pensée où il y a plus d'égalité entre les professionnels, dans le sens où le regard de chacun a son importance et son point de vue a son importance, il y a simplement des coordonnateurs et c'est vrai que la hiérarchie pyramidale à ce moment-là a fait que boum, d'en haut c'est non, on arrête quoi. Et c'était assez difficile.
Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez quand même pu mettre en place le sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est l'humanitude ?
Alors, le mettre en place, c'est un bien grand mot. Disons que personnellement, donc j'avais démissionné du service dont je viens vous parler parce que c'était comme cautionner quelque chose d'impensable de rester à travailler dans ces conditions. Entre-temps, j'ai été responsable d'une autre unité qui était plus dans le soin aigu où en fait on m'a demandé de créer des unités de gériatrie. Et c'est à ce moment-là que en fait je suis partie en formation et j'ai rencontré Yves Gineste et Rosette Marescotti qui expliquaient les principes de base de l'humanitude et comment s'occuper des personnes qui ont ce qu'ils appelaient à l'époque des comportements d'agitation pathologique.
Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur qu'est-ce que c'est que l'humanitude ? Qu'est-ce que sont les critères de l'humanitude ?
Revenir un peu sur l'histoire oui. De comment le concept est né. Yves Gineste, Yves et Rosette étaient donc des enseignants d'éducation physique et sportive. Et ils ont été intéressés à un moment donné pour devenir formateurs en manutention des malades. À l'époque, on donnait beaucoup d'argent pour que les soignants arrêtent de se faire mal au dos. Donc on s'est dit, si on donnait la formation de comment se placer pour porter les gens, peut-être qu'ils auraient moins mal au dos. Sauf que, ils ont mis en place des formations très techniques. Et Yves et Rosette ont suivi cette formation de formateurs et puis sont arrivés dans les hôpitaux. Et je peux raconter l'anecdote que Yves raconte le plus souvent, c'est que son premier patient... il arrive dans une chambre où on lui demande d'aider les soignants à mettre debout une personne à lourd hémiplégique. Ça veut dire, quand on parle comme ça, c'est un grand monsieur, fort, costaud, lourd physiquement, et qui est hémiplégique, donc paralysé d'un côté. Et donc, la demande était d'aider à l'asseoir au fauteuil. Et dans l'esprit des soignants, c'était comment le porter pour qu'il aille au fauteuil. Et Yves, avec son bon sens non soignant, à la base, regarde la situation. Et puis, commence à parler avec le monsieur en disant, l'idée, c'est que vous alliez au fauteuil, ça va vous faire du bien, c'est sûr. Enfin, je brode, hein. Voilà, je vais vous expliquer. Vous allez commencer par vous mettre assis, je vais vous aider. Et puis ensuite, on va voir comment est-ce que vous vous tenez sur votre jambe valide, parce que un hémiplégique, c'est quand même un hémivalide aussi. Et puis ensuite, si tout va bien, je vais me placer de cette manière-là. Si ça vous fait rien que je sois un peu en proximité de vous. Et puis, on va faire un pivot et puis vous allez vous asseoir. Voilà, et donc il explique ça au monsieur, qui comprend tout, évidemment, et le travail se fait avec juste une personne qui vient en assistance d'une autre, et il n'a aucunement été question de porter le monsieur. Donc ça a été le début de prise de conscience, comme quoi très souvent on faisait des choses sans demander l'avis des gens, que aussi même on faisait des choses sans l'avis des gens, c'est-à-dire ça allait contre l'avis des gens. Avoir lutté contre des oppositions, puisque la personne n'étant pas informée, se demandant ce qui se passe, mais a une réaction contraire, en fait. En plus, souvent, comme les soignants ne sont pas vraiment formés à la qualité de toucher, donc souvent, c'est des gestes qui sont un petit peu rapides, un peu durs, et qui vont faire mal, ce qui fait que quand ils ne sont pas expliqués, bon, y a une incompréhension qui se met en place, et donc des réactions automatiques contraires qui se mettent en place. Donc, ils ont mis au point, au fil de leur prise de conscience, un concept qu'ils ont appelé à l'époque la manutention relationnelle. Et à la suite de ça, ils se sont mis à travailler dans tout type de service. Ils ont eu la chance de pouvoir, je crois, sans me tromper, que c'était l'hôpital de Limoges. Ça remonte à quelques années, ces souvenirs. Et qu'ils ont eu l'autorisation de travailler dans tous les services. Tous les services, sauf les grands brûlés. Ils sont allés en réanimation, en néonat, ils sont allés en maternité, ils sont allés en rééducation, ils sont allés en chirurgie, vraiment dans tout type de service pour consolider leur approche. Et ils ont fait vraiment des petits miracles, quoi, si on peut dire. Ça ne se passait pas de façon si simple au niveau relationnel, si on peut dire, avec l'ensemble de l'établissement, en tout cas des soignants qui voyaient des non-soignants arriver et puis faire mieux qu'eux, quoi. C'était pas toujours facile à passer.
Et du coup, de toute cette expérience, ils l'ont résumé, vous m'avez dit en préparant l'entretien, en oui. Plusieurs critères. Est-ce que vous pouvez les présenter?
J'y viens, en fait. C'est qu'à un moment donné, leur travail a été à rencontrer un travail qui se passait au Québec. Où les professionnels, enfin, il y a une agence au Québec qui s'occupe de la santé, des travailleurs de santé. Et cette agence s'intéressait beaucoup aux ce qu'on appelle les comportements d'agitation pathologique, donc qui était le thème de la formation dont je parlais tout à l'heure. Et cette rencontre a fait que les Québécois sont venus en France suivre les formations avec Yves Rosette, ont filmé leurs gestes, leurs actes. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette prise de conscience que quand ils agissaient de la façon dont ils agissaient, Yves et Rosette, il n'y avait pas d'agitation, ce qu'ils appelaient, eux, les Québécois, les agitations pathologiques. Donc, ils ont vraiment détaillé les choses et mis en évidence qu'il y avait, dans le soin, il y avait une séquence, c'est-à-dire qu'il y avait des préliminaires aux soins, c'est-à-dire qu'on entrait en relation avant de réaliser un soin, qu'une fois on était en relation, on gardait cette relation vraiment de façon précise. Et à la fin du soin, il y avait un temps de consolidation qu'ils ont appelé consolidation émotionnelle. Et ces trois éléments sont en lien avec des points très précis dans la relation qui sont le regard, la parole et le toucher. Et de ce fait, ils se sont dit, mais en fait, quand un soignant entre en relation avec une personne qu'il vient aider, et quand ce soin se passe bien, c'est que, en ayant mis en place ces trois critères-là, le soignant lui-même se sent un être humain en relation avec un être humain. Et c'est ça qui a été à l'origine de l'appellation « les critères d'humanitude ». Les critères d'humanitude qui sont ceux qui vont faire que moi, je me sens un être humain quand ils sont activés, ces critères, qui entrent en relation avec un autre humain, un autre être humain chez qui je reconnais ces critères. Donc ça veut dire que pour entrer en relation, on rentre en relation dans le champ visuel de la personne, que la relation passe par un regard. Les êtres humains ont un regard particulier, qui est, comme je le fais là maintenant, qui est axial, hein, c'est pas de côté, qui est plutôt horizontal en général, qui est prolongé.
Je confirme, elle ne me regarde pas de haut.
Ensuite, il y a le regard et puis il y a la parole. La parole, elle est assez spécifique à l'être humain, avec toutes ses modulations par le ton, par les mots, le choix des mots. Et puis, il y a le toucher. Et notre toucher, il est très spécifique, dans le sens où on est le seul mammifère à avoir une station debout prolongée, hein, sur nos pattes arrière, et ça libère les mains. Et nos mains, du coup, peuvent faire plein de choses. Elles sont devenues super sensibles. On a une représentation au niveau du cerveau énorme, surtout du pouce, en tout cas. Et on a l'appréhension avec le pouce qui se met en opposition. Et ça, c'est très spécifique à l'espèce humaine. Le quatrième critère étant la verticalité. Donc, en mettant en œuvre ces critères-là, il se rendait compte que les comportements d'agitation pathologique, en fait, disparaissaient complètement. Par rapport à la séquence dont je parlais tout à l'heure, donc il y a les préliminaires. Dans les préliminaires, on active, dans l'ordre, ces critères. Ça veut dire qu'on va rentrer dans le champ visuel de la personne avant de lui parler et avant de la toucher. Et moyennant quoi, on n'a pas de réaction de surprise, on n'a pas de réaction, beaucoup moins de réaction d'opposition. Donc on va capter l'attention de la personne. Donc si elle ferme les yeux, qu'elle regarde de l'autre côté, on va tout faire pour capter l'attention avant de commencer le soin. Et une fois qu'on a capté l'attention de la personne, on est en relation, on va pouvoir commencer le soin. Et pendant ce soin, on va conserver en permanence deux de ces trois critères en lien avec la personne.
La der, c'est toujours la meilleure des java. C'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui en sorcelle. Quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux, quand les corps se confondent, comme au monde il n'y en a pas deux, c'est la java bleue. Il est au bal musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, serrant celle qu'on aime dans ses bras, on lui murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon, c'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui en sorcelle. Quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux, quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la java bleue. Chérie, sous mon étreinte, je veux te serrer plus fort, pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments, on se fait dans la folie d'un moment. Car si serments remplis d'amour, on sait que ça ne durera pas toujours. Mais c'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui en sorcelle. Quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux, quand deux cœurs se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la java bleue. enfant de paix, la Java bleue.
Est-ce que vous pourriez rapporter quelques exemples marquants que eux vous ont racontés ou que vous avez vécu dans une situation d'humanitude?
Il y a une histoire qui me tient beaucoup à cœur, et je l'ai encore racontée récemment. J'étais formatrice pendant 2 ans. Et ensuite, pendant au moins 1 an, j'ai fait du suivi de formation. Ça veut dire que j'ai visité des établissements qui cherchaient à mettre en place en interne la méthodologie de soins. Et dans mes débuts de formatrice, j'ai été appelée dans un établissement où, en fait, ils étaient en train d'essayer de réparer les conséquences d'une situation maltraitante préalable. Donc, je ne dirais pas quel établissement c'était. En tout cas, ce n'était pas dans la région. Et les personnes, en fait, il y avait, je ne sais plus si c'est 50% de plus d'occupation des lits que ce qui était autorisé. Et en particulier, il y avait une chambre où les personnes étaient dans leur lit, avec 4 lits côte à côte, une énorme cheminée monumentale derrière, parce que c'était un ancien château. Et ces personnes n'ont pas quitté leur lit pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et évidemment, les critères de relation, d'humanitude, ce qui va faire qu'on se sent dans la vie, ils étaient plutôt absents. Et en plus, donc c'est des personnes qui ont des problèmes de compréhension, c'est-à-dire qui ne comprennent pas leur environnement, qui, soit parce qu'ils ont des problèmes sensoriels, soit parce qu'ils ont des troubles cognitifs. Ça, c'est souvent dans ces situations que les difficultés viennent. Donc, on me demande, quand on donne les formations, on prend en soin les personnes les plus difficiles choisies par les soignants. Donc, c'est top.
Et là, on vous a donné...
Et là, on m'a proposé une dame de 103 ans qui avait passé, je ne sais plus, alors c'est vieux, hein, mais plusieurs mois, voire années, dans ce lit dont je parlais tout à l'heure, avec une grande cheminée derrière, des poutres au plafond, des barreaux sur les côtés. Et donc, ça faisait 2 ans que l'établissement était récupéré et qu'une autre attitude était engagée. Mais cette dame-là, depuis 2 ans, c'était une petite bête sauvage, quoi. C'était une petite dame qui griffait, qui mordait, qui se laissait pas faire. C'était juste impossible de faire sa toilette, quoi. Donc, les soignants faisaient ce qu'ils pouvaient. Évidemment, ils pouvaient pas, avec ce qu'ils savaient, éviter les soins de force. Et donc, je fais la toilette devant les soignants, aidée par une autre, une personne. Et je fais tout le protocole, j'entre en relation pour faire court. Et puis, le soin se passe et moi, à la fin, je suis pas très contente parce que j'ai pas vraiment réussi à entrer en relation. La personne n'a pas ouvert les yeux. Mais les soignants, ils m'ont dit « Waouh ! Vous avez réussi à la déshabiller et à la laver. » Je dis « Bon, ok, mais moi, je suis pas... ça ne me va pas. J'ai l'impression de m'être un peu mise en lutte avec elle. » Donc, j'appelle Rosette le soir. Et elle me dit « Écoute, quand c'est difficile comme ça, on agit sur l'émotionnel. Et ce que je te conseille, je te propose, c'est « Va chercher des chants de Noël. » Donc, je reviens le lendemain matin. J'ai dit aux filles, vous connaissez les chants de Noël? Bon, ça va. Allez, on y va. Donc, on va dans la chambre. Et puis, pareil, j'essaye de rentrer en relation avec la personne. Et puis, on commence à chanter des chants de Noël. Bon, 1 chant de Noël, 2 chants de Noël, rien du tout, 3 chants de Noël. On commence à avoir un peu le répertoire qui s'épuise. Donc, on s'en va vers le temps des cerises. Enfin, bon, des choses un petit peu classiques comme ça. Toujours rien. Puis, à un moment, il y a une fille qui commence à chanter « C'est la Java bleue, ta 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 la 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 ». Et là, on voit la dame qui ouvre ses yeux, grands comme des billes, comme ça, qui me regarde, parce que j'étais en face d'elle, et qui dit « Ah non, la Java, ça va trop vite !» Donc, premier regard, probablement depuis 3 ans, 4 ans, premier mot, compréhensible, depuis tout ce temps-là. Et ensuite, on a pu faire un soin, avec son aide. On l'a installée devant le lavabo, elle a pu... plus ou moins participé, et ensuite elle a fait 15 pas. Elle a marché.
Et donc, elle vous a regardé pendant le soin ?
Absolument. On a gardé le contact et on a continué à chanter, plus ou moins, quoi, en fonction de ses réactions, parce qu'elle avait des choix assez... voilà. Et bon, ce que je ne peux pas dire, c'est l'évolution à long terme.
J'allais vous poser la question. Est-ce que vous savez si les soignants derrière ont pu conserver, ont pu...
Alors, pendant un temps, certes, oui. Oui, oui, tout à fait. Et ça a fait une vraie bascule, en fait, dans l'esprit de tout le monde, cette histoire-là. Et on appelle ça un accouchement gériatrique.
C'est magnifique, hein ?
Oui, c'est une belle histoire.
Et est-ce que cette manière particulière là, de rentrer en relation dans le soin, c'est quelque chose qu'on peut généraliser à la relation en général ou c'est vraiment spécifique aux soins ?
On voit bien que ça repose sur des choses qui sont très générales. Dans la rue, s'il y a quelqu'un qui arrive par derrière et qui vous crie dans l'oreille, vous allez avoir peut-être le réflexe de pouf, lui donner un coup de poing derrière. Donc c'est que les modalités de la relation n'ont pas été respectées. Donc on voit que de prendre conscience de ça, ça peut peut-être aider des fois quand on est mal reçu, de se dire ah tiens, qu'est-ce que j'ai raté là. Ça peut aider. Le fait d'être vraiment en relation quand il y a un acte qui est programmé, c'est important. Et la notion de préliminaire, elle est importante.
Donc, je me dis, en tant que maman qui a donné le bain à ses enfants,
par exemple,
ça peut être utile.
Tout à fait. Absolument. Absolument. Donc, il y a des choses qui sont utiles, donc d'être vraiment en relation, de sentir qu'il n'est pas parti ailleurs, quoi. Et qu'il est là avec ce qu'on est en train de faire ensemble. Et puis, ben, si c'est un enfant et qu'il y a un moment où c'est autre chose, de prendre le temps que cette autre chose se passe et de revenir à la relation. S'il y a quelque chose à faire, c'est vraiment important qu'il y ait une contribution mutuelle. Après, il y a des techniques qu'on peut utiliser, mais qui semblent un peu à l'encontre de ça. Quand il y a des choses un petit peu difficiles, on appelle des techniques de diversion. C'est-à-dire que carrément, on raconte une histoire, on branche sur autre chose. Mais c'est vraiment presque l'inverse de tout ce que je viens d'expliquer. Parce que là, on branche quelqu'un sur carrément un autre monde. Mais pendant ce temps-là, il peut se passer quelque chose dont la personne n'est pas consciente. Donc, tout dépend de notre objectif. Si par exemple, il faut faire un shampoing parce que vraiment, c'est nécessaire à un enfant qui ne veut pas. L'important, c'est d'être conscient de ce qu'on est en train de faire.
C'est quelle intention on met dans l'acte qu'on pose.
Absolument. Absolument.
Bien, merci beaucoup, Nicole. Je vous remercie d'être
Avec
venue.
Avec plaisir.
Essentiel, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission en rediffusion sur Radio Sud-Afrique la première semaine de chaque mois, le lundi à 18h, le mercredi à 16h et le samedi à 14h. Retrouvez également l'émission sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify. Enfin, vous pouvez vous y abonner directement sur le site internet du podcast à l'adresse suivante podcast.osha.co/essentiel-le-podcast.